Première, Père Philippe, Saint-Jeudard, 25 octobre 1984.
Faut donc essayer de comprendre la naissance de cette dernière partie de la philosophie qui est le point de vue de la philosophie première. Vous voyez que la naissance de cette philosophie n'est pas immédiatement à partir d'une expérience humaine. Je crois ça important à souligner, qui montre tout de suite le caractère spécial de la philosophie première. Ça explique du reste la difficulté que nous avons à comprendre exactement sa situation. C'est beaucoup plus facile de comprendre la situation de l'éthique, la situation de la philosophie de l'activité artistique, même de la politique, la philosophie de la nature, la philosophie du vivant, que la philosophie première. Ça explique comment aussi, dans cette partie de la philosophie, vous voyez, l'aspect réflexion est quand même très important. C'est comme une espèce de carrefour entre la philosophie réaliste, part de l'expérience, l'attitude réflexive, la critique, et par le fait même, comment la philosophie première si facilement s'idéalise, parce qu'elle implique quelque chose de l'idéalisme. Le père Dubarle, dans son dernière année, quand il enseignait à l'Institut catholique de Paris, avait fait un cours pour essayer de comprendre si on pouvait unifier le point de départ de la philosophie première chez Descartes et chez Aristote. C'est pas bête comme problème. Vous savez ce que dit Aristote et ce que dit Descartes comme point de départ. Aristote dit ceci, de façon générale, que le est esti. Il dit s'il existe. Est-ce que cette réalité existe? L'interrogation sur l'exister. Puis le ti esti. Ces deux types d'interrogations. S'il existe et qui est-il? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-il? Qu'est-il? Qu'est-ce qu'il? Alors, l'interrogation non plus sur l'exister, mais sur ce qu'est la chose. Ce qu'est la réalité. Son qui, disent les Grecs d'aujourd'hui, hein, le titi. Hein, c'est le ti. C'est le « ti » qu'il faut mettre en lumière. Tandis que là, on met en lumière « esti ». S'il existe, et qu'est-ce que c'est? Pour Aristote, c'est très net. Il y a un ordre entre ces deux. Il y a un contact avec la réalité du côté de l'exister qui est antérieur à l'interrogation du « ti esti ». Autrement dit, on a cet ordre-là. Un, deux. Je me pose la question du tiesti par rapport à une réalité qui se donne à moi. Je rencontre, tout simplement prenez l'expérience courante, hein, quand vous êtes dans un pays que vous ne connaissez pas et que vous rencontrez un animal que vous n'avez encore jamais vu. Je ne parle pas du serpent à sonnette, n'est-ce pas, mais au fond un serpent assez extraordinaire. Bon, il existe, je l'ai vu. Vous dites tout de suite, je l'ai vu. Je l'ai bien vu, je l'ai vu. Il existe, il est là. Qu'est-ce que c'est? J'ai encore jamais vu une bête comme ça. Oui. Tout de suite, les deux. Il existe, le fait d'exister. Le fait d'exister. On verra ça. Le fait d'exister, il existe. Qu'est-ce que c'est? Alors, Descartes dit Exactement, il le dit ça, explicitement. C'est intéressant, c'est pour ça que je prends ce lieu-là, parce que c'est dit explicitement par Descartes. Descartes dit explicitement, non. L'interrogation du qui est-il est première, et l'interrogation du peut exister est seconde. Je crois ce lieu très très important pour toute philosophie. Parce que c'est dit explicitement, on ne peut pas dire que c'est une interprétation. Donc c'est une conscience très nette qu'on inverse l'ordre, que le TST, qu'est-ce que c'est, cette réalité, elle est cela, l'idée que je me fais de cette réalité, parce qu'en fait c'est ça, c'est l'idée que je me fais de cette réalité, qui exprime ce qu'elle est, sa nature, ce qu'elle est. Ensuite, je me pose la question, est-ce qu'elle existe? Autrement dit, il y a eu d'abord en moi, on comprend très bien dans la perspective de Descartes, avec les idées innées. Dans mon berceau, j'avais des idées innées. Puis je me suis demandé si ces idées innées que j'avais, est-ce qu'elles existaient? Et petit à petit, avec mon expérience, j'ai découvert que ces idées que je portais en moi, en effet, elles existaient. Ces réalités existaient. Donc, il y a d'abord les idées, puis le fait d'exister. Et Descartes dit là qu'il tourne le dos à Aristote. Je crois que c'est très très joli ce moment-là. Et c'est très intéressant pour nous. Parce que ça fait tout de suite deux orientations tout à fait différentes. On part du fait d'exister ou on part de l'idée. Dans le fait d'exister, on essaie de comprendre qu'est-ce que c'est que la réalité. De l'autre côté, on part de l'idée pour voir si elle existe. Alors, c'est intéressant de voir ça. C'est très intéressant parce que c'est sûrement, vous voyez, une gare de triage. À un moment, on voit deux orientations différentes. Deux orientations très différentes. Quand vous les regardez dans le terme, vous ne voyez plus très bien. Mais ce qui est intéressant, et c'est là où ça a quelque chose de particulièrement intéressant, c'est de voir au point de départ ces deux orientations. Alors, est-ce qu'on peut en faire la synthèse? Et je vois très bien la question. Est-ce qu'au fond, le point de départ du cogito, je réfléchis d'abord sur ma pensée, ou je réfléchis sur la réalité qui existe. Si je réfléchis d'abord sur ma pensée, je suis en face d'une philosophie première et d'une métaphysique qui sera avant tout une métaphysique des idées. Et de l'autre côté, au contraire, une métaphysique qui essaiera de connaître ce qui est, et en définitive l'homme. Vous voyez comment la question se pose, étant donné lorsqu'il s'agit de la philosophie première, je n'ai pas une expérience immédiate qui commande la philosophie. Donc, il y a une part de réflexion. S'il y a une part de réflexion, il y a donc une part de conscience. Il y a donc un cogito. C'est pas si commode que ça de répondre. Et c'est vrai, parce que si je pars de l'expérience brutale, évidemment, l'expérience brutale, elle m'est donnée, c'est elle qui est à la source de ma conscience. Mais si je dis non, il n'y a pas d'expérience directe de ce qui est. Le jugement d'existence n'est pas une expérience. Il est sous-jacent à toute expérience. Toute expérience prise au sens fort. Toute expérience présuppose le jugement d'existence. Ceci est. Ceci existe. Mais le jugement d'existence comme tel, regardez la brave personne qui va acheter au marché un chou, elle le regarde si c'est bien, mais elle ne va pas demander à la marchande du chou, est-ce qu'il existe? On arrive ici, il y a une chaise. Est-ce que cette chaise existe? Non, je m'assieds dessus, évidemment, en m'asseyant dessus, je m'apercevrai si elle existe, hein, si elle résiste ou pas. Mais au fond, le problème de l'existence n'est pas immédiat, n'est pas premier, d'une certaine, par rapport à ma connaissance. Il est premier fondamentalement, c'est bien évident, il est premier, et dans un jugement de sagesse, il sera tout à fait premier, mais dans mon expérience habituelle, c'est pas ça qui m'inquiète en premier lieu. Vous n'êtes pas inquiété en premier lieu de savoir si ça existe. Mais ça va de soi, c'est bien évident. On voit tout de suite le partage des eaux. Les rêves qui n'existent pas, lève, vis dans tes idées. Et puis, le jugement d'existence, ce qui est, on voit très très bien le partage que nous faisons immédiatement. Attention, mettre en lumière le jugement d'existence pour être le point de départ d'une philosophie, d'une partie de la philosophie, présuppose une réflexion. Si ça présuppose une réflexion, ça présuppose une conscience. Alors quel est le rôle de la conscience par rapport à ce jugement d'existence? Et alors est-ce que le cogito va être comme une lumière intermédiaire, va être comme un métaxus, si vous voulez, par rapport à la réalité que je touche? Vous verrez ça plus tard, on l'expliquera. Mais au moins, il faut se poser la question, parce que je crois que c'est important de comprendre que ça ne va pas de soi de faire de la métaphysique. Ça ne va pas de soi de faire de la philosophie première. Ça ne va pas de soi dire, oh mais oui, ça va de soi, c'est très facile, mais non. Vous savez, quand saint Thomas affirme 175 fois dans ses œuvres « Primo cadit in intellectus ens »« Primo cadit in intellectus ens » c'est l'être qui tombe en premier lieu dans l'intelligence. Faites pas attention, mais ça crie, vous savez. Je ne sais pas d'où ça vient, si c'est extérieur ou c'est ici. C'est l'extérieur. Parce que je voyais des inquiétudes là-bas. Alors, c'est des inquiétudes de là en disant mais c'est. Alors je comprends que ça peut poser d'où ça vient. D'ici je ne vois pas. C'est ceux qui sont sous le poste qui le voient. Alors, primo cadit in intellectus ens. Saint Thomas le dit 175 fois. D'après une petite thèse faite à la grégorienne. Thèse facile, n'est-ce pas? Mais thèse quand même, d'avoir relevé tous les textes de saint Thomas, saint Thomas dit ça. En premier lieu, tombe dans l'intelligence cadit. En latin, on voit très bien ce que c'est. En grec, je ne vois pas très bien dans Aristote. Vous savez rien? Ça n'existe pas dans Aristote. C'est du côté arabe. Parce que c'est Avicenne. Saint Thomas pense à Avicenne, pas Aristote. Primo cadit in intellectus est. C'est l'être qui tombe en premier lieu dans l'intelligence. Donc, ça va de soi. Vous êtes un imbécile, ce qui ne dit pas que l'être est là. Primo cadit in intellectus. Ah, pas du tout. Ça, c'est une réflexion critique. C'est au terme que je dis ça. Mais je ne dis pas ça du tout en premier lieu. En premier lieu, qu'est-ce que vous direz? Mais oui, en premier lieu, je touche du bois, je touche de... Voilà ce que je touche. C'est pas l'être. Primo cadit in intellectus. Est-ce que l'expérience première que vous faites, c'est l'être? Et vous voyez tout l'équivoque qu'il y a dans une affirmation comme celle-là. Et tout l'intérêt que ça présente aussi. Qu'est-ce que ça veut dire quand saint Thomas dit primo cadit in intellectus ens? C'est une phrase sur laquelle on doit revenir souvent. Et sur une phrase qu'on doit essayer de bien comprendre. En premier lieu, tombe dans l'intelligence ce qui est. C'est très important pour comprendre ens in quantum ens. C'est très très important. Si je ne vois pas ça, je crois que je ne comprends pas bien autre chose. Il faut mettre toujours les deux en parallèle. Parce que c'est le mot ens chez saint Thomas qui est si difficile à comprendre. Il y a deux mots qui sont très difficiles à comprendre dans saint Thomas. Ens et esse. Et c'est les rapports entre les deux. Et chez les thomistes, on discute. Et on discutera jusqu'à la fin du monde et le retour du Christ. Et on lui demandera qu'est-ce qui est premier. Ens ou esse. Vous comprenez? Alors traduisez rapidement. Étant. Être. Alors, faut surtout pas traduire comme ça. Hein. Surtout pas, parce qu'alors à ce moment-là, Heidegger apparaît immédiatement. Là, ça ne va plus du tout. C'est pas l'étant et être, il faut traduire comme saint Thomas lui-même l'indique. Et id quod est, c'est-à-dire ce qui est. Et c'est ce qui est. Et esse, oui, c'est difficile de traduire autrement que être. C'est l'infinitif, c'est la forme de l'infinitif. Tandis que ce qui est, c'est le participe, mais le participe qu'on ne doit pas traduire comme le participe l'étant. Et comme ce qui est. Ens exprime ce qui est. Oui, là encore, comme la grammaire doit être au service de l'usage du mot. Parce que si je cite, je ne prends pas l'usage du mot chez saint Thomas, ens, en disant ce qui est, je traduirai étant. Et comme étant a été secoué dans beaucoup de sens aujourd'hui, on risque de s'orienter vers quelque chose qui ne va plus. Alors, quand saint Thomas dit ens in quam ens primo cadit in deitus. Ce qui tombe en premier lieu dans l'intelligence. Alors, comment le comprendre? Vous voyez que c'est pas si commode que ça. Et ceci, c'est pour vous faire comprendre que lorsqu'il s'agit de voir le point de départ de la philosophie première, nous devons dire que ce n'est pas une expérience, mais une méta-expérience. Je crois qu'on doit dire une méta-expérience. Ça, c'est le jugement d'existence. Le jugement d'exister, si vous voulez. Quand je dis ceci est. C'est sous-jacent à toute expérience, mais c'est au-delà de l'expérience. Si c'est au-delà de l'expérience, puisque je dis méta, si c'est au-delà de l'expérience, ça exige une réflexion. La philosophie première n'apparaît qu'à partir d'une réflexion. Je vois toutes mes expériences, mes cinq expériences, nous avons vu l'autre jour, les cinq expériences, l'expérience de l'amitié, l'expérience du travail, l'expérience de la coopération, l'expérience de ce qui devient, l'expérience de ce qui se meut. Donc ces cinq expériences, elles sont immédiates. Vous se donnez immédiatement. Tandis qu'au contraire, là, ce qui est, ceci est, ça, ça m'est donné après coup. Donc il y a une réflexion. S'il y a une réflexion, il y a un cogito qui apparaît. Alors c'est là où on va discuter. Hein. Je ne discute pas pour le moment, mais il y a un cogito, il y a une réflexion. C'est très bien. Je réfléchis, et en réfléchissant, je dis, au-delà des expériences, il y a un jugement d'existence. Et ce jugement d'existence, je le mets en pleine lumière. J'ai parfaitement le droit de mettre en pleine lumière ce jugement en disant « ça m'intéresse ». Ça m'intéresse au point de vue de la vie de mon intelligence. Ça m'intéresse pour mieux comprendre ce que représente chacune de ces expériences. Ceci est. Qu'est-ce que c'est que ce jugement d'existence ? Ceci est. Mais comme c'est une méta-expérience, je comprends aussi très bien comment ça peut rester enfoui. Et que seules les expériences habituelles sont mises en pleine lumière. Mais que cette méta-expérience peut très bien rester complètement enfouie. Je ne m'en occupe pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de m'occuper de la réalité. La réalité telle qu'elle m'est donnée. Or, ce jugement, ceci, ne m'est pas donné immédiatement. Il faut que je me mette à réfléchir. Et donc, si je me mets à réfléchir, je suis déjà donc dans une attitude qui n'est plus aussi immédiate. Et c'est vrai. L'aspect de la métaphysique, l'aspect de la philosophie première, n'est pas aussi immédiate que les autres parties de la philosophie. Et du reste, c'est facile à comprendre. Hein. Si la philosophie regarde l'homme, je vous l'ai dit, la philosophie regarde l'homme. L'homme, il implique un corps, donc il implique un devenir. L'homme, il est vivant, donc il implique la philosophie du vivant. L'homme, il implique des opérations, donc je dois étudier ces opérations. Mais l'être, ça ne veut rien dire de l'homme. Parce que la vache existe, le chat existe, ça ne dit rien du tout de l'être. Est-ce que l'être va dire quelque chose de l'homme? À première vue, j'ai l'impression de me mettre dans une position tellement commune. Toutes les réalités existent, là aussi. Je suis devant l'œcuménisme le plus absolu et le plus radical. Or, quand vous êtes devant l'œcuménisme le plus absolu et le plus radical, on ne voit plus beaucoup d'originalité. Quelle est l'originalité de l'homme au point de vue de l'être? C'est pas comme moi du tout. Quelle est l'originalité de l'homme au point de vue de l'être? Ils sont tous, tous existent. Alors j'aurais facilement de dire, puisque ma philosophie regarde l'homme, ben, le jugement d'existence est métaphysique ou non, ça n'a rien à voir. Ah, c'est très grave de dire ça. C'est pour ça qu'Aristote a le souci de dire que si on fait de la philosophie première, c'est pour connaître le nous et Dieu. Il ne dit pas pour connaître l'homme, hein, pour connaître le nous et Dieu. Et c'est vrai, c'est par le jugement d'existence mis en pleine lumière, donc ceci est mis en pleine lumière, que je vais pouvoir connaître le nous, traduisez l'intelligence, pas la raison, pas la raison. L'être ne m'avance rien au point de vue de la raison. Rien du tout. Mais c'est l'intelligence, l'esprit. L'esprit. Et puis Dieu. Je peux atteindre l'exister de Dieu que par l'être. Alors là, je comprends que pour connaître parfaitement l'homme dans ce qu'il a de plus lui-même, c'est-à-dire son nous, son intelligence, son esprit, pour connaître comment l'homme est capable de s'ouvrir à celui que nous appelons Dieu, il faut la métaphysique. Il faut la philosophie première. Alors, non seulement la philosophie première intéresse l'homme, mais elle intéresse souverainement. C'est par la philosophie première que je vais pouvoir parler de la personne humaine. Puisque la personne humaine, c'est justement de comprendre comment l'esprit est lié à la nature. Comment l'esprit est lié au devenir. Comment l'esprit est lié au vivant. Comment l'esprit est lié à l'éthique, comment l'esprit est lié à la fabrication artistique, comment l'esprit est lié à la communauté. C'est ça qui intéresse souverainement le philosophe quand il veut étudier l'homme dans sa profondeur. Parce que par l'esprit, je suis au-delà de la communauté, je suis au-delà du devenir. Par l'esprit, je suis au-delà de l'éthique. Par l'esprit, alors, est-ce que je suis encore lié à tout ça? Comment l'esprit peut-il être immanent à tout ça? Et tout le problème de la personne. Et je ne pourrai vraiment traiter de la personne que par une philosophie première. Que par l'être. Mais on a souvent besoin d'un plus petit que soi. Et au fond, la philosophie première me fait comprendre. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. L'être, il est dans toutes les réalités. Il est dans la petite bête du bon Dieu. Cette petite bête du bon Dieu, elle existe. Elle me donne l'être. C'est tout petit, l'être. Le petit caillou, il existe. On n'a plus besoin d'un plus petit que soi. L'être, il est partout. Et c'est l'être qui va me permettre de m'élever le plus haut. Ça, c'est invraisemblable. C'est par l'être que mon intelligence humaine va pouvoir se dépasser elle-même, dépasser l'homme. Jusque-là, je n'ai pas dépassé l'homme. Mais par la philosophie première, je vais pouvoir montrer que l'homme, parce qu'il est esprit, parce qu'il est capable de saisir ce qui est. L'homme demande de se dépasser. Et c'est pour ça que la philosophie première va être liée à une anthropologie. et qu'une anthropologie n'est vraie que si elle est liée à une philosophie première. Alors à ce moment-là, c'est l'éclatement d'anthropologie pour saisir. Oui, c'est comme ça que je vois que c'est vrai. La philosophie première a un statut très particulier qui explique comment si facilement elle s'idéalise, comment si facilement on l'identifie à une logique. Parce que c'est pas commode du tout de saisir ce qui détermine cette philosophie. L'être, c'est tellement commun. Ens in comuni, hein. Quand saint Thomas dit ens in comuni, l'être c'est quelque chose de tellement commun, c'est si difficile de saisir ce que c'est que l'être, nous allons le voir tout de suite du reste, hein. Alors là, à ce moment-là, tous nos pauvres mots éclatent, on est devant quelque chose qui est au-delà du langage habituel. Le langage habituel n'est pas au niveau de la philosophie première, ça vous allez tout de suite le voir, hein. Bon, j'espère que vous voyez là la naissance de la philosophie première. Et une naissance difficile. Un accouchement difficile. Hein, quand Socrate disait qu'il était une sage-femme et que le philosophe devait être une sage-femme, je comprends très bien pour la philosophie première. C'est pas commode du tout de mettre en évidence cette ultime partie de la philosophie qui doit être la découverte de ce qui est, du point de vue de ce qui est, du point de vue de l'être. J'espère que vous avez vu au moins ça. Alors vous voyez tout de suite, hein, comment, ça nous reverrons après, comment le problème peut se poser avec la réflexion du cogito, comment on peut se poser la question, au fond, la métaphysique, c'est à partir des idées, c'est pas à partir du petit caillou. C'est pas possible. Non, c'est à partir des idées. Parce que, au fond, l'être, c'est quelque chose de tellement subtil qu'il ne peut cohabiter dans mon esprit, dans la vague. Demandez si l'être est vraiment comme naturalité avec la vague. L'être, il est en code naturalisé dans mon esprit. C'est dans mon esprit qu'il est en code naturalisé. Là, ça... On a des gens, c'est fait pour l'être. Et l'être est fait pour l'être. C'est réciproque. Hein. Tandis que l'être n'est pas du tout en code naturalisé avec la vache, avec le caillou, avec toutes les petites réalités que je vois. Pas du tout. Là, c'est l'être matériel. C'est la matière qui domine, c'est la quantité qui domine. Mais l'être est complètement en fou. Et c'est juste tout ça. Ce qui fait comprendre comment, si facilement, pour mieux saisir l'être, on va partir de l'idée. Descartes. Parce que c'est quand même là où on est plus à l'aise. C'est vrai, je suis beaucoup plus à l'aise au point de l'être si je pars de l'idée. Et si je pars des idées les plus parfaites qui seront les transcendentaux. Alors je parle de ces idées tout à fait parfaites, tout à fait premières, et je dirais même métaphysiques, elles doivent se développer à partir de là. À partir de ce moment-là, je ne peux plus saisir ce qui est. Je suis uniquement en face de mes idées. Et mes idées ne me font pas saisir ce qui est. Alors, commençons à voir très rapidement, parce que je ne peux pas refaire tout le cours de métaphysique. C'est un ici, mais le point de départ, il est donné pour ceux qui ne l'ont pas vu l'année dernière. Et pour ceux qui l'ont vu l'année dernière, c'est toujours bon de revenir au point de départ. Hein. Vous savez bien, parce que c'est ça qu'on doit savoir le mieux, hein. Petit Jean. Hein, c'est toujours le commencement qu'on sait mieux. C'est toujours ça qu'on doit reprendre tout le temps. Donc, la philosophie première apparaît à partir du moment où je pose ce jugement d'existence au-delà de toutes mes expériences. Ceci est. Qu'est-ce que je vais faire? Très beau, ceci est. Puis je vais rester là. Alors, il faut tout de suite comprendre que que dans ce jugement d'existence, ceci est. Vous mettez l'accent sur le ceci ou sur est. Ça, nous pouvons. Figurez conscient que cette affirmation, ce jugement, implique un nom et un verbe, comme toute énonciation. Ça implique un nom et un verbe. Alors, le nom, c'est ceci. Ceci, c'est quoi ? C'est n'importe quoi. C'est tout ce que vous voulez. Ceci, c'est la vache, l'homme, Pierre. C'est une réalité qui existe. Telle vache, tel homme, tel chat, c'est une réalité qui existe. Alors, vous pouvez mettre l'accent sur le nom, ceci. À ce moment-là, rien de nouveau. Parce que, de fait, toutes les autres parties de la philosophie ont regardé l'homme dans ses diverses dimensions. Vous pouvez mettre l'accent sur « et ». Ah, ça devient beaucoup plus délicat. Le jugement d'existence, ceci est. Alors, je pose ce jugement d'existence diversement. Et je vois que le « ceci » peut prendre des dimensions diverses. La vache, le chat, l'homme. Et « et » demeure toujours le même. La vache existe, le mouton existe, le chien existe, l'homme existe. Vous voyez, c'est toujours, toujours « et, et ». Il est toujours le même. Ça, c'est très, très curieux. Le « ceci » varie. C'est tout, c'est n'importe quoi et c'est tout. C'est tout ce que vous voulez. Et le « est » demeure toujours le même. Du moins, il demeure toujours le même dans mon langage. Est-ce que c'est la même chose de dire « la vache existe » ou « l'homme existe » ? La vache est. Oui, confirmez. Telle vache existe. Tel prêt. L'homme existe. J'existe. Je suis. Je. Oui, c'est même le « je ». Je suis. Donc le « moi », il est dans le « ceci ». Vous pouvez prendre tout. Alors, ce qui est très curieux, vous voyez, quand Maritain parle de l'intuition de l'être, et il fait en référence de l'intuition de l'être par rapport à Raïssa, qui à un moment donné, je le sais puisque Maritain m'a raconté ça, à un moment donné, Raïssa a eu comme une espèce d'illumination qu'elle a communiquée à Jacques. Et alors, elle a eu cette illumination de dire cette chose étonnante. Le chat existe, j'existe. Je comprends très bien. Pensez-le profondément et je vois très bien cette chose étonnante. Alors, l'être, l'exister, il est présent dans la vache, il est présent en moi. C'est cette expression que je vous disais l'autre jour à propos d'Aristote qui est si belle. Le ton est un anthropo. L'être à l'homme. L'être au champ. L'être au blanc. Le ton est un anthropo. C'est très très beau. Oui, ça montre très bien qu'Aristote a saisi que l'einaï était l'être, était présent à la vache, était présent au champ, était présent à la blanche du mur. L'anguille existe. J'existe. Alors, au fond, à ce moment-là, il n'y a qu'une espèce d'intuition. L'intuition que l'être est présent dans une très grande diversité. Pour qu'il y ait intuition, il faut l'unité dans la diversité. C'est ça l'intuition. L'intuition, c'est l'unité dans la diversité. C'est pas l'analogie, mais c'est l'intuition. Et c'est très important de comprendre que c'est l'intuition. On saisit l'unité dans la diversité. Ah, c'est extraordinaire. Et l'intuition conduit tout de suite. Alors, je crois qu'on peut mettre là l'intuition de Maritain. En réalité, c'est pas l'intuition de l'être, c'est l'intuition de l'unité d'exister dans la diversité. Et je crois que c'est très important, en effet, c'est très très important, ça rejoint, je vous dis, cette formule d'Aristote, qui m'a toujours semblé quelque chose d'extraordinairement beau, parce qu'Aristote signale ça dans le De Anima, comme étant l'éveil de l'intelligence. C'est l'intelligence qui peut donner ça. Nos sensations ne peuvent pas dire ça, notre imagination ne peut pas dire ça, mais l'intelligence peut dire ça. Alors, à partir de là, il y a une certaine interrogation qui va naître. À partir de l'admiration. L'intuition est toujours liée à l'admiration. Quand vous avez une intuition, vous êtes en état d'admiration. Ah, comme c'est beau! Et tout de suite, oh, c'est beau, c'est extraordinaire de voir que l'exister, il est présent dans le chat, il est présent dans le mouton, il est présent en moi. Il y a quelque chose de, comme une espèce de panthéisme, vous voyez. Je suis en communion avec toutes ces réalités, en communion dans l'être. D'où admiration, d'où interrogation. Oui. Alors, il y a l'expérience, la multiplicité des expériences qui s'unifient dans un regard intuitif, à partir de là, une admiration qui naît, et à partir de cette admiration, l'interrogation. On interroge que quand on est dans un état d'admiration. Ça, on interroge tout de suite. Quand on n'est pas dans un état d'admiration, on reçoit béatement. N'est-ce pas ? Et on attend son tour pour recevoir. Tandis qu'au contraire, quand on est dans un état d'admiration, c'est un état affectif, l'admiration. Et alors, quand on est dans un état d'admiration, à partir de là, naît l'interrogation. L'interrogation, c'est l'intelligence qui s'éveille. Vous êtes bien éveillé quand vous interrogez. Le petit lever du matin. Vous n'interrogez pas tout de suite. Machinalement, vous allez à l'oraison. Et puis, vous vous réveillez progressivement. Et quand vous êtes bien réveillé, vous interrogez. Et quand vous continuez de dormir, vous n'interrogez pas. La phase d'admiration est entre deux, qui éveille l'interrogation. L'interrogation, c'est l'intelligence qui s'éveille. Et qui dit qu'est-ce. Qu'est-ce l'être ? Qu'est-ce ? Et qui se trouve partout ? Qu'est-ce l'exister ? L'interrogation qui a ce pouvoir extraordinaire d'abstraire. L'interrogation abstraite, oui. C'est la possibilité de mettre tout en lumière un aspect. Je laisse dans les ténèbres ceci, qui est présent dans mon jugement d'existence. Dans mon jugement d'existence, il est présent. Il est aussi présent que est. Dans l'intuition, le « est » prend une valeur unique. Ah oui, parce que c'est l'unité. Dans l'intuition, l'unité prend toujours une valeur unique. Au-delà de la diversité. Et l'exister est commun à la diversité. Donc, il a déjà une valeur particulière, mais il est relatif à la diversité. Donc, il n'est pas séparé. Et il suscite l'admiration. Et dans l'interrogation, je sépare. Je sépare le ceci de « est » et je pose en pleine lumière « qu'est-ce que c'est que « est » ?» qui a la capacité d'unifier toute cette diversité. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Qu'est-ce que c'est que l'être ? Et alors on comprend très bien que c'est sous la forme infinitive que l'interrogation pose « qu'est-ce que c'est que l'être ?» parce qu'on met « est » en pleine lumière, or c'est la forme infinitive qui permet au verbe d'être posé pour lui-même. Et donc la forme infinitive est très nécessaire pour poser le verbe pour lui-même. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Ce verbe que j'ai, qui était le verbe d'être, qui a été saisi dans le jugement d'existence en disant « ceci est », qui est mis en pleine lumière dans l'intuition, et puis là, qui est projeté qu'est-ce que c'est que l'être ? Et c'est à partir de ce moment-là que la métaphysique commence. Tant qu'il n'y a pas eu cette interrogation, la métaphysique ne commence pas. Je suis au seuil, hein, je suis au seuil, parce que je pourrais rester uniquement sur l'interrogation. Mais je comprends très bien aussi comment Heidegger dit que c'est l'interrogation sur l'être qui est la chose la plus grande. C'est vrai, c'est l'hiver. Il y a quelque chose de très beau dans toute sa pureté. Qu'est-ce que c'est connaître ? Parce que pour poser déjà l'interrogation « qu'est-ce que c'est connaître ?», il faut déjà le penser. Un peu. Je ne sais pas ce que c'est, mais je suis en état d'admiration et mon interrogation naît à partir de cette interrogation. Naît à partir de cette admiration. Qu'est-ce que c'est connaître ? Alors, soulignons tout de suite que nous mettons là l'admiration. Vous voyez que les modernes mettraient l'angoisse. Heidegger met l'angoisse à la place de l'admiration. C'est très curieux et c'est très significatif. Puisque l'être, je ne peux le penser qu'à partir de l'angoisse. S'il n'y a pas d'angoisse, je ne peux pas penser l'être. Parce que l'angoisse a un pouvoir extraordinaire de mettre loin toutes les déterminations. Quand je supprime toutes les déterminations, j'entre dans l'angoisse. Le terrain qui fait naître l'angoisse, c'est l'indétermination, le sable mouvant. On s'enlise. Alors ça, c'est très très curieux de voir comment Heidegger, lui, met l'angoisse comme ce qui va permettre la pensée de l'être. L'angoisse va supprimer toutes les déterminations. C'est le ciel et la terre première qui disparaissent pour un ciel nouveau. C'est tout à fait ça. C'est grâce à l'angoisse que tout ça va disparaître. Il y a un rouleau compresseur qui fait disparaître tout ça. Et puis quelque chose de nouveau apparaît. L'être. L'au-delà des étangs. C'est tous les étangs déterminés qui vont disparaître. Donc toutes les déterminations qui vont disparaître grâce à l'angoisse pour que l'être apparaisse. Alors, vous voyez, au fond, c'est très curieux, parce qu'à la fois, Heidegger reconnaît l'importance de l'interrogation, et en même temps, il met l'angoisse comme nécessaire pour qu'on puisse penser l'être. Alors, l'interrogation et penser l'être sont prises pratiquement en même temps. C'est ça qui est une chose curieuse. Hein. On verra ça. Mais je voulais souligner tout de suite qu'il y a là deux pôles très intéressants au point de vue. L'admiration et l'angoisse. L'admiration est source d'interrogation. L'angoisse déblaye le terrain. Une purification radicale. C'est pas l'angoisse qui est source d'interrogation. Parce que l'angoisse par elle-même est plutôt source d'inhibition. Mais l'angoisse peut être une espèce de purification radicale. Et je crois que c'est ça qui est exprimé. C'est une espèce de purification radicale. Il faut que tous les étangs disparaissent pour que l'être apparaisse. Parce qu'il ne peut pas apparaître sur les étangs. Il est au-delà. Il faut le dévoiler. Et pour le dévoiler, il faut supprimer tout ce qui est antérieur, tout ce qui est visible, tout ce qui est manifeste, pour que l'être apparaisse. Alors, l'être, en apparaissant, il est connu, il est saisi. Et il est saisi, je ne dis pas dans une interrogation, je crois qu'il est saisi par l'intelligence elle-même. Connaître l'être. Alors, ceci, c'est pour vous montrer que l'interrogation, fruit de l'admiration, va mettre en pleine lumière qu'est-ce que c'est que l'être, en laissant tomber toutes les autres déterminations. Mais laissant tomber toutes les autres déterminations, comprenons bien, on ne les supprime pas, on ne les annule pas, on les dépasse. C'est un dépassement à l'égard de toutes les autres déterminations. Mais les autres déterminations ne sont pas rejetées. C'est la différence avec la position heideggerienne, où les étangs sont rejetés. Et là, nous allons voir tout de suite, parce que la grosse question qui va se poser pour nous, quand je pose la question « qu'est-ce que c'est que l'être ?» Quelle est la signification de cette interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» Qu'est-ce que ça correspond comme signification ? Et c'est là, on va voir tout de suite le tournant.
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère.